Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant? Cet épisode a été écrit par Sarah Zaredine, chercheuse postdoctorante en psychologie sociale à l'Université de Genève, et vous est contée par Inès Mintec. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. Nous avons déjà tous et toutes commis une faute. La première réaction est souvent d'essayer de fuir cette responsabilité pour éviter un sentiment insupportable de culpabilité. Un réflexe peut alors être d'accuser une autre personne, ou des facteurs externes qui nous ont amenés à agir de telle manière. Parfois, nous allons même jusqu'à nous proclamer victimes. Pourquoi avons-nous tendance à nier notre responsabilité et à nous mettre dans une position de victime ? Être responsable d'un acte répréhensible menace l'image que nous donnons de nous aux autres sur le plan moral. Trouver un moyen de fuir sa responsabilité permet de préserver une image positive de soi, qui est d'ailleurs un élément essentiel de notre identité. Cela nous permet aussi d'esquiver des éventuelles conséquences de nos actes. Par exemple, en niant sa responsabilité par rapport à une faute au travail, votre collègue évitera ainsi une sanction ou un licenciement et s'assurera d'être toujours apprécié par ses autres collègues. Puis se positionner en victime offrira plusieurs avantages. Cela peut permettre de gagner la sympathie d'autres personnes, d'obtenir un dédommagement ou même de légitimer de futures actions agressives de notre part en les présentant comme de l'autodéfense. Ce que nous mettons instinctivement en place individuellement se produit de manière similaire dans des conflits entre groupes. Dans plusieurs conflits intergroupes dans le monde, comme le conflit israélo-palestinien, le conflit entre les catholiques et les protestants en Irlande du Nord, ou encore le conflit entre les Turcs et les Kurdes en Turquie, chaque groupe, nommé endogroupe, son propre groupe, se perçoit comme victime et perçoit le groupe opposé, l'exogroupe, comme responsable ou perpétrateur. Ce phénomène s'explique par deux grandes théories de psychologie sociale, la théorie de l'identité sociale et la théorie de l'auto-catégorisation. Selon ces théories, les individus sont motivés à promouvoir et maintenir des identités sociales positives. Ils cherchent à se percevoir positivement. Comment s'y prennent-ils ? Eh bien, en se comparant positivement à des exogroupes, c'est-à-dire à d'autres groupes. Ils vont alors mettre en place cela via des perceptions et comportements qui favorisent l'endogroupe par rapport à l'exogroupe. Il s'agira donc de pensées ou de comportements qui sont avantageux pour leur propre groupe, comme valoriser son groupe dans son discours ou de favoriser les membres de son groupe lors de situations du quotidien. Pour mieux comprendre cela, nous vous proposons de nous pencher sur les expériences initiales de Tachfel, connues sous le nom de « paradigme des groupes minimaux », des expériences devenues très célèbres. Le principe est simple. Des participantes et participants sont répartis aléatoirement en deux groupes. On leur indique par exemple qu'ils font partie des jaunes. Juste après, on demande à chaque participant et participante, individuellement, de distribuer des points entre les membres de leur propre groupe, les jaunes, et ceux de l'autre groupe, les bleus. Les résultats ont montré que les personnes attribuaient plus de points ou de ressources à leur propre groupe qu'à l'autre groupe, l'exogroupe, alors que ces groupes sont formés de manière aléatoire et seulement quelques minutes avant l'expérience. Ces études ont montré l'existence d'un favoritisme envers l'endogroupe, nommé le biais pro-endogroupe. Ce phénomène a largement été étudié dans plusieurs conflits à travers le monde. Des recherches récentes ont examiné cette question au Liban. Ces recherches ont d'ailleurs été effectuées par Sarah Zaredine, l'autrice de cet épisode, dans sa thèse. En effet, le Liban a été touché par une guerre civile entre 1975 et 1990, mobilisant d'un côté les chrétiens et chrétiennes libanaises et de l'autre les musulmans et musulmanes libanaises. L'objectif est de comprendre les représentations de victimisation et de responsabilité par rapport à la guerre civile libanaise de chacun de ces groupes, mais aussi d'évaluer l'impact de ces représentations sur les relations entre ces groupes. À travers des études par questionnaire, l'ensemble de ces individus a répondu à des questions sur leurs attitudes par rapport au groupe adverse, leur sentiment de responsabilité et de position de victime pour leur groupe et l'autre groupe. Il leur était aussi demandé s'ils se définissaient comme chrétiens-chrétiennes, musulmans-musulmanes ou plutôt comme libanais-libanaises. Les résultats ont montré que les groupes se comportent comme le font les individus. c'est-à-dire que chaque groupe avait une plus grande tendance à nier sa responsabilité dans le conflit et à plutôt la placer sur l'autre groupe, mais aussi à se considérer comme victime. Cette tendance s'appelle la compétition victimaire. Ces phénomènes sont encore plus marqués si les personnes se sentent émotionnellement attachées à leur groupe religieux, chrétien ou musulman, puisqu'elles ont alors une plus grande motivation à préserver l'image positive de leur groupe. Mais alors pourquoi cette dynamique mérite-t-elle d'être étudiée? Ces divergences et désaccords dans les représentations maintiennent les groupes en conflit. Cependant, les recherches en psychologie sociale ont démontré que, quand les groupes acceptent leurs responsabilités dans un conflit, ils s'engagent alors plus facilement dans un dialogue avec l'autre groupe, reconnaissant les souffrances du groupe victimisé et adoptant une attitude de réconciliation. Ces processus mènent à des relations intergroupes harmonieuses et préviennent des conflits futurs. Des attitudes positives envers l'autre groupe sont plus présentes si les individus perçoivent les membres de cet autre groupe comme similaires à eux et les incluent dans leur groupe social. Dans le cas du conflit entre groupes religieux au Liban, c'est la représentation des chrétiens, chrétiennes et musulmans, musulmanes comme appartenant à une même catégorie libanaise qui le permet. En percevant les personnes face à nous dans un conflit comme étant membres d'un groupe similaire, comme par exemple appartenir au même genre, à la même nation, etc., cela nous aide à accepter et davantage reconnaître notre responsabilité dans le conflit et vice-versa. En d'autres termes, l'union fait la force. En psychologie sociale, cela s'appelle une recatégorisation de l'endogroupe et de l'exogroupe dans une nouvelle entité endogroupe inclusive, supraordonnée. Concrètement, l'idée est de faire abstraction des appartenances au groupe en conflit pour replacer le focus à une appartenance à un groupe plus grand comprenant tout le monde. Dans notre exemple, il s'agissait de la nationalité libanaise. S'intéresser à ce genre de phénomène est utile et essentiel pour améliorer les interventions psychosociales dans la résolution de conflits. Le biais pro-endogroupe, représenté par la croyance « nous sommes victimes, vous êtes responsables », n'est peut-être donc pas la meilleure attitude à adopter. Ainsi, pour appréhender ce genre de situation, il s'agirait plutôt d'avancer l'idée que nous sommes à la fois victimes et responsables et qu'il est temps de s'unir pour sauver le groupe d'appartenance commun, c'est-à-dire le pays dans lequel on vit, le collectif auquel on appartient, indépendamment des affiliations idéologiques divergentes sur certains aspects, etc. Ceci implique un passage d'une croyance de compétition victimaire à celle d'une victimisation inclusive, ainsi qu'un passage d'une perception d'identité subordonnée ou religieuse à une identité commune ou nationale qui englobe les deux groupes. Ce sont les prérequis pour des relations intergroupes harmonieuses. Ces recherches et résultats se sont focalisés sur un conflit symétrique, où chaque groupe subit et inflige des souffrances à l'autre groupe de manière relativement équivalente. Néanmoins, d'autres conflits n'ont pas cette configuration symétrique, et les enjeux sont alors plus complexes. Alors la prochaine fois que vous commettez une erreur, pensez-y. Quel clan choisirez-vous ? Victime ou responsable ? Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Sarah Zahreddine, postdoctorante à l'Université de Genève, relue par toute l'équipe et comptée par Inès Mintec. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram, X et même Mastodon. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément.